Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et nous passons une semaine exceptionnelle ensemble. D'abord parce que nous sommes tous à Chambord et que nous y sommes en compagnie du duc de Saint-Simon. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire
en nouvelle diffusion.
Jean-Luc Rider.
Ça va ?
Très bien.
C'est beau le matin.
Oui.
Bonjour David Maistri.
Bonjour Jean-Luc.
Attendez, mais je rêve, vous faites la bise avec Olivier Beaumont.
Il y a plusieurs musiques en mémoire que nous connaissons, puisque c'est un des grands spécialistes de la musique versaillaise. Et encore cette semaine, donc, pour nous présenter Saint-Simon, le mémorialiste, qui parle parfois de musique et qui a visité parfois Chambord aussi. Souvenez-vous, il nous racontait cela, Olivier Beaumont. Il était presque voisin lorsqu'il était l'invité du duc de Cheverny dans un château qui est celui de Moulinsart, rendu célèbre
oui.
par Hergé, tout près de Chambord, qu'il snobait un peu tout de même le duc de Saint-Simon.
Aujourd'hui, quand Olivier Beaumont est en résidence à Chambord, quand vous allez l'y rejoindre et y dormir quelques nuits, David Maistri, on y est à l'aise, en civil, en jeans, il faut conserver une certaine étiquette. Quand les gardes japonais repartent à 18h, on s'y retrouve tout seul le soir.
Exactement, il n'y a plus qu'une équipe de la gendarmerie qui sécurise le lieu, gendarmerie montée en plus, puisqu'on est dans ces forêts célèbres pour leur chasse royale ou présidentielle.
Le sujet du jour, David Maistri.
On revient à la pompe funèbre qu'on a laissée hier pour finir le règne de Louis XIV avec Olivier Beaumont.
On a bien sûr à la cour des morts très de grands personnages, c'est le cas du duc de Bourgogne, donc en 1712, donc qui était le dauphin puisque son père était mort, donc premier petit-fils aîné de Louis XIV, donc qui devait se destiner à être roi, qui est en fait le père de Louis XV. Et il y a une très belle pièce publiée en 1713 de François Couperin qui s'appelle Les Regrets, dont j'imagine moi qu'il peut être une sorte de, c'est une chose personnelle, une sorte de tombeau du duc de Bourgogne. Pourquoi ? Parce que François Couperin a été le, on appelait ça à ce moment-là, maître d'accompagnement et de composition du duc de Bourgogne, donc il a été très proche de lui. Saint-Simon aussi d'ailleurs, parce que pour Saint-Simon, qui était très contre Monseigneur, ce qu'on appelait la cabale de Meudon, c'est-à-dire tout l'environnement du fils de Louis XIV, Saint-Simon n'était pas du tout dans cet entourage-là. En revanche, pour lui, on peut dire qu'à la mort de Monseigneur, donc à la mort du fils du roi, il a eu de grands espoirs, c'est terrible à dire, mais de grands espoirs, parce qu'il pensait que le duc de Bourgogne allait régner, et c'était pour lui une sorte de souverain idéal en devenir, donc il était proche du duc de Bourgogne. Et il a d'ailleurs été très extrêmement triste, et surtout inquiet sur l'avenir du pays lorsque le duc de Bourgogne est mort. On a des pages magnifiques de Saint-Simon sur le duc de Bourgogne, sur sa mort. Et on sait qu'il aimait beaucoup la musique, le duc de Bourgogne, qui est la musique avec une sorte de ravissement, même dit Saint-Simon, mais qu'il a arrêté complètement par piété, c'est-à-dire qu'il a arrêté d'aller à la musique. Au bout d'un moment, il a plus voulu de musique à sa messe, et la fin de sa vie a été marquée beaucoup par une piété très importante où la musique n'avait absolument pas sa place. Et donc on imagine, dans la biographie de Couperin, qu'à partir d'un moment, les leçons avec le duc de Bourgogne ont été supprimées à la cour parce qu'il avait refusé toute musique. Et donc je vais jouer maintenant cette pièce Les Regrets, qui est une pièce en do mineur, donc qui a été très, très sombre au XVIIe, publié en 1713, mais que je trouve encore très dans l'esprit des tombeaux qu'on avait au XVIIe siècle, qui étaient on a ça chez Louis Couperin, chez Froberger, qui étaient donc l'équivalent en musique des oraisons funèbres de Bossuet, par exemple. Et donc, ces regrets, encore une fois, je ne peux pas affirmer que c'est le tombeau du duc de Bourgogne, mais j'y vois quelque chose de tellement affligé, de tellement désolé, qu'il n'est pas impossible, publié un an après sa mort, que ce soit de la part de François Couperin, une sorte d'oraison funèbre du duc de Bourgogne. Thank you.
enregistré pour nous tout seul ici et pour les auditeurs de cette série de musique en mémoire, Les regrets de François Couperin sous ce haut plafond du château de Chambord où nous sommes toute la semaine avec vous, Olivier Beaumont, pour déplorer avec François Couperin peut-être la mort du duc de Bourgogne à travers toujours ce prisme des mémoires de Saint-Simon qui raconte soit en synchronisé, soit en réminiscence.
Exactement.
Ce grand règne et ce tournant du XVIIIe siècle.
Alors, à la même année donc, que la mort du duc de Bourgogne et la mort de sa femme, la duchesse de Bourgogne, qui était une demoiselle de Savoie, puisque les deux sœurs avaient épousé en fait les deux frères, c'est que les deux filles du duc de Savoie avaient épousé les deux petits-fils de Louis XIV, donc le duc de Bourgogne et le duc d'Anjou, qui est devenu roi d'Espagne, qui était donc la première reine d'Espagne, première femme plutôt de Philippe V, avant la fameuse Élisabeth Farnèse, la terrible Élisabeth Farnèse. Et donc, on a l'impression qu'à la mort de la duchesse de Bourgogne, il y a une espèce de voile qui se met sur toute la cour. Je pense que réellement, et Louis XIV et Madame de Maintenon étaient un peu très attachés à la duchesse de Bourgogne, qui apportait une espèce de vent de jeunesse et de fantaisie dans la cour, qu'elle avait un peu perdu dans ces années-là.
Bon. Donc elle meurt en 1713 aussi, vous dites ?
Elle meurt en 1712, comme le duc de Bourgogne. Et donc il y a un texte très touchant de Saint-Simon sur elle, plusieurs fois d'ailleurs à l'intérieur des mémoires. Tout d'abord, il dit « Les grâces naissaient d'elles-mêmes de tous ses pas, de toutes ses manières et de ses discours les plus communs. Elle ornait tous les spectacles, était l'âme des fêtes, des plaisirs, des bals, et y ravissait par les grâces la justesse et la perfection de sa danse. » On voit encore là à quel point la danse était essentielle. C'était on délivrait un saut de bon danseur quelque part, et c'était une chose très, très importante à la cour. Il dit aussi, Saint-Simon, « Elle avait grand soin de voir le roi en partant et en arrivant, et si quelques bals en hiver ou quelques parties en été lui faisaient percer la nuit, » j'aime beaucoup cette formule de percer la nuit, d'aller dans la nuit quelque part, « elle ajustait si bien les choses qu'elle allait embrasser le roi dès qu'il était éveillé et l'amuser du récit de la fête. » Et alors on voit aussi un autre caractère des chaises de Bourgogne qui était aussi qui savait qu'elle allait peut-être devenir reine et qui a un comportement quelquefois assez désagréable. « Un soir qu'à Fontainebleau où toutes les dames des princesses étaient dans le même cabinet qu'elle et le roi après le souper, elle avait baragouiné de toutes sortes de langues et faisait cent enfances pour amuser le roi qui s'y plaisait. Elle remarqua Madame la Duchesse et Madame la Princesse de Conti qui se regardaient et se faisaient des signes et haussaient les épaules avec un air de mépris et de dédain. » Alors Madame la Duchesse et Madame la Princesse de Conti, ce sont deux filles de Louis XIV. La Princesse de Conti, la fille de Louis XIV et de la Lavalière, et Madame la Duchesse, une des filles de Louis XIV et Madame de Montespan, qui étaient très évidemment, qui étaient donc les bâtardes, comme on disait ce mot horrible à l'époque, et qui étaient sans arrêt en conflit avec la Duchesse de Bourgogne. Donc ces deux filles de Louis XIV n'acceptent pas beaucoup cette façon qu'a la Duchesse de Bourgogne de faire cent enfances, comme dit Louis XIV, cette phrase magnifique. Donc elle jouait sans doute au bébé un peu avec le roi. Donc elle désapprouve sa conduite. Et à ce moment-là, donc la dauphine, Madame la duchesse de Bourgogne, prit Madame de Saint-Simon d'une main et Madame de Lévis de l'autre. Elle se mit à sauter et à chantonner, et je m'en ris, donc je me ris de ces deux bâtardes, entre guillemets, et je me moque d'elles, et je serai leur reine, et je n'ai que faire d'elles, ni à cette heure, ni jamais, et elles auront à compter avec moi, et je serai reine, et je serai leur reine. Sautant et s'élançant, et s'éjouissant, magnifique, éjouir, le terme de Saint-Simon magnifique, et s'éjouissant de toute sa force. Ces dames lui criaient tout bas de se taire, que ces princesses l'entendaient, et que tout ce qui était là la voyait faire, et jusqu'à lui dire qu'elle était folle, car d'elle, elle trouvait tout bon. C'est-à-dire que la duchesse de Bourgogne acceptait beaucoup de choses de la part de la duchesse de Saint-Simon. Que dit Saint-Simon ? Encore une fois, c'est pas forcément certain. Apparemment, d'après Saint-Simon, elle trouvait tout bon. Et la duchesse de Bourgogne de sauter plus fort et de chantonner plus haut, et je me moque d'elle, je n'ai que faire d'elle, et je serai leur reine, et cela ne finit que lorsque le roi entra. Donc on a là ici une vision très enfantine de la duchesse de Bourgogne, mais qui sait très bien le pouvoir énorme qu'elle aura, même si la mort a empêché ses prévisions. Mais en tout cas, on a ici une vision un peu moins sympathique de la duchesse de Bourgogne, mais en même temps, elle avait aussi cette façon de donner énormément de dynamisme à la cour, notamment au bal de 1700 pour le carnaval. Ont été extrêmement festifs, beaucoup grâce à la duchesse de Bourgogne.
On fêtait le nouveau siècle aussi, en 1700 j'imagine.
Oui, je pense que c'est ça aussi, puis il y a tout un vent de nouveautés qui commençait à souffler sur la cour. Et il a cette phrase magnifique à sa mort, Saint-Simon, il dit « Elle ne se souciait de parure que pour les bals et les fêtes, avec elle s'éclipsèrent joie, plaisir, amusement même, et toute espèce de grâce, les ténèbres, couvrir toute la surface de la cour. Magnifique phrase de Saint-Simon, avec un style toujours extraordinaire. Alors là aussi, j'ai parlé des regrets hier, qui était pour moi une sorte de tombeau du duc de Bourgogne. Un peu plus tard, dans le deuxième livre, une pièce de clavecin de François Couperin, il y a une pièce qui s'appelle Les Amusements. Alors bien sûr, les amusements, ça peut être absolument tout. J'aime, moi, à imaginer que les amusements, ce sont souvent les amusements de la duchesse de Bourgogne, qui là aussi était morte quelques années plus tôt. Et on a une pièce très en répétition tout le temps, donc comme une sorte de ces jeux qui tournoient de toupie comme ça. On a ces amusements qui pour moi est une pièce très jolie, un rondo mais un peu sophistiqué avec des reprises du thème qui ne sont pas toujours les mêmes. Et pour moi ça peut évoquer effectivement les cent enfances de la duchesse de Bourgogne devant Louis XIV et même maintenant.
Sous vos doigts ici au château de Chambord, Olivier Beaumont, ces enfantillages ou amusements, c'est le titre officiel de cette page de François Couperin que vous imaginez lié avec le texte que vous lisiez tout à l'heure du duc de Saint-Simon à propos de la duchesse de Bourgogne.
Et comme effectivement elle dansait très bien, je vous propose peut-être d'entendre des extraits des caractères de la danse de Rebelle, de Jean-Ferry Rebelle. Nous avons eu il y a deux jours les caractères de la guerre de Dandrieu. On a les caractères de la paix ensuite de Fouquet. Donc les caractères, c'était une chose très précise, une sorte de tentative musicale et littéraire d'ailleurs de décrire telle ou telle chose. Les caractères de la danse, c'est une des pièces les plus connues. Et là aussi, on peut tout à fait imaginer avec quelques pièces qu'on va entendre maintenant, la duchesse de Bourgogne dansant à un carnaval ou à un autre bal de la cour.
l'ensemble des surprises interprètes de Jean-Ferry Rebel, ses caractères de la danse, en écho encore donc à la grande danseuse qui était la duchesse de Bourgogne. On parle aujourd'hui avec vous, Olivier Beaumont, vous nous racontez la fin du règne de Louis XIV à travers les mémoires de Saint-Simon.
Oui, on évoque une autre personnalité importante et qui est dénigrée beaucoup par Saint-Simon, qui est la duchesse du Maine. La duchesse du Maine qui était évidemment petite fille et qui était une condé, donc qui était une princesse du sang, qui a épousé donc un bâtard, encore une fois j'emploie le mot à dessein, un enfant légitimé de Louis XIV, le fils aîné de Madame de Montespan et Louis XIV, qui était le duc du Maine, qui ont été très en conflit d'ailleurs avec Saint-Simon. Et la duchesse du Maine a donc organisé à la fois à Clagny, mais surtout à Sceaux, dans le château malheureusement qui est reconstruit depuis près de Paris, elle a organisé ce qu'on appelait les Nuits de Sceaux, donc qui étaient des divertissements très importants où elle-même se produisait à la fois pour du théâtre, pour de la musique. Alors elle a évidemment ces fêtes qui ont été un peu crescendo jusqu'à la fin du règne, et même après d'ailleurs, ont eu des répercussions financières sur le couple, parce que le couple s'est absolument ruiné pour ces fêtes. Le duc du Maine était un peu contraint par sa femme, on pourrait dire, de faire ça. Mais en dehors de cette question-là, dont Saint-Simon a l'air de s'occuper beaucoup, mais qui, je pense, le préoccupait peu, ce qui gênait Saint-Simon dans l'attitude de la duchesse du Maine, c'était le fait qu'elle allait en dehors. Elle sortait de ce que quelqu'un de son rang devait faire normalement à la cour. Et il n'a pas senti, je pense, Saint-Simon, le modernisme incroyable de cette femme, qui sans doute était critiquable, avait un caractère difficile, était visiblement pénible avec ses bien des gens, des serviteurs, tout ça, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas senti cette émancipation, on pourrait dire, de la condition féminine, quelqu'un qui allait sortir de sa condition, qui allait surtout créer ensuite bien des événements philosophiques aux Lumières. C'est-à-dire qu'on sait que la pensée philosophique est passée beaucoup par les femmes au XVIIIe, à la fois par les salons, salons littéraires, salons philosophiques, Madame du Deffand, par exemple, tellement de gens ensuite, et aussi par ces théâtres privés où justement les femmes se produisaient. Donc il y a une sorte de liberté de ton extraordinaire qui va déboucher sur un très grand mouvement intellectuel au XVIIIe siècle. D'une certaine façon, la duchesse du Maine participe à cette, pour employer un mot un peu, cette libéralisation, pourrait-on dire, des femmes au XVIIIe. Et Saint-Simon ne sent pas ce modernisme-là, il ne fait que désapprouver la conduite de quelqu'un d'une princesse du sang qui se conduit comme une comédienne, ce qui était pour lui quelque part le pire des avis sur la question. Il dit par exemple, dans les mémoires à l'année 1714, il parle des folies de Sceaux, il dit Sceaux, donc le château de Sceaux, Sceaux était plus que jamais le théâtre des folies de la duchesse du Maine, de la honte, de l'embarras, de la ruine de son mari, par l'immensité de ses dépenses et le spectacle de la cour et de la ville qui y abondait et s'en moquait. Elle y jouait elle-même Athalie avec des comédiens et des comédiennes et d'autres pièces plusieurs fois la semaine. Nuit blanche en loterie, jeux, fêtes, illuminations, feux d'artifice, en un mot fêtes et fantaisies de toutes sortes et de tous les jours. Alors, comme souvent chez Saint-Simon, il y a à la fois, c'est un peu ambigu, parce qu'il y a un tout petit peu une sorte de fascination pour le monde du spectacle qu'il désapprouve, mais il le désapprouve tellement, peut-être ce que je fais là est de la psychanalyse de bon marché, pourrait-on dire, mais on a l'impression qu'il désapprouve tellement que ça finit par devenir un peu curieux et on se demande s'il n'y a pas aussi un peu d'envie de sa part. Mais les Nuits de Sceaux, la duchesse du Maine a effectivement généré tout un grand mouvement artistique autour d'elle, un peu comme plus tard le fera la marquise de Pompadour avec le théâtre des Départements à Versailles, et bien sûr Marie-Antoinette ensuite. Donc on a quelque chose, je trouve, dans son attitude qui est moderne, qui annonce vraiment le plein essor des Lumières, et effectivement que Saint-Simon, qui restait sur le règne même de Louis XIV, et surtout le règne même de Louis XIII, qui n'a pourtant pas connu, mais qui était pour lui une sorte d'exemple, ne pouvait que désapprouver une attitude qui allait tellement vers le futur.
Une attitude de débauche, un peu comme dans son esprit. Donc, alors que pour nous, faire jouer Athalie de Racine et les musiques de Nicolas Bernier comme ces Nuits de Sceaux, c'est difficile à imaginer comme de la dépravation.
Vous avez tout à fait raison. Je vais faire un chapitre dans mon livre sur musique et bonne mœurs. C'est-à-dire que chez Saint-Simon, le monde du spectacle est toujours lié à une forme de débauche. C'est incroyable. Par exemple, que si un noble avait une liaison avec une cantatrice de l'opéra, elle était assimilée à une prostituée. C'est inimaginable. C'est-à-dire que vraiment, les gens du théâtre étaient forcément des gens dépravés qui initiaient, qui allaient vers la débauche. Tout ce qu'il dit sur le régent qui aimait aller à l'opéra et toutes les soirées du régent qu'on voit dans Que la fête commence, par exemple, ce magnifique film ancien de Bertrand Tavernier, pour lui, c'est un synonyme de dépravation absolue. Donc on a ce rapport très ambigu avec le monde du spectacle. Il dit qu'il n'est pas un homme de musique et de spectacle, et il en parle tout le temps en reprochant, sauf si c'est une musique liturgique, une nuit de Noël à la Chapelle Royale au ça, ils trouvent ça très bien, bien sûr. Mais dès qu'il y a, ou pour une pompe funèbre, un moment donc, où la liturgie est mêlée à un deuil ou une victoire militaire. Mais dès que c'est à l'opéra, dès que ce sont des théâtres privés, il est toujours très critique, Saint-Simon, vis-à-vis de ça. Mais c'est très ambigu parce qu'on a envie de se dire, au bout d'un moment où il critique tellement, on dit, mon Dieu, mais que d'envie.
Seigneur, vous faites.
Extrait de l'Aurore, seconde cantate ou divertissement avec symphonie de Nicolas Bernier pour Les Nuits de Sceaux, publié donc en concert de chambre aux cantates françaises à plusieurs voix, dédié à Madame la Duchesse du Maine, dont vous nous proposiez le portrait à travers Saint-Simon, Olivier Beaumont.
Alors nous arrivons maintenant dans les mémoires à une partie peut-être la plus touchante que je conseille, si j'ai un conseil à donner, bien sûr, aux auditeurs de lire. C'est le moment en 1715, à la mort du roi, où le récit narratif des mémoires, le récit chronologique des mémoires s'interrompt pour faire une sorte de grand tableau du règne. Et on a ces passages magnifiques qui sont les plus passionnants de mémoire, avec caractère du roi, caractère de maintenant, la construction de Versailles, une sorte de résumé du règne, comme ça, qui est extraordinaire, avant qu'il parle de la régence. Et on a notamment, juste à sa mort, il intitule ça lui-même « Espèce de journal du roi jusqu'à sa fin », qui est extrêmement touchant, où il dit, donc à partir du, ça commence le 9 août je pense, donc jusqu'au 1er septembre à 8h15 du matin, puisqu'il est, il est mort le 1er septembre à 8h15 du matin, et on a donc ce récit extrêmement précis où il dit, c'est fut la dernière fois qu'il sortit, c'est la dernière fois qu'il marcha, c'est la dernière fois qu'il alla à la messe, donc on a quelque chose d'extrêmement touchant que Denis Podalydès a lu en juillet quand on a fait ce spectacle sur Saint-Simon.
Ici et, même à Chambord.
Ici même à Chambord, et c'était très impressionnant parce que quand vous avez un grand comédien qui dit ces phrases sont comme des litanies, enfin ce fut la dernière fois qu'il marcha, c'est la dernière fois qu'il tint conseil, c'est très très impressionnant à entendre. Et dans ce journal, il y a cette chose extraordinaire, on a une alternance chez Madame de Maintenon, puis ensuite chez lui quand il ne pouvait plus se déplacer.
Madame de Maintenon qui est la dernière favorite. Donc,
exactement, et femme de Louis XIV. Donc Madame de Maintenon qui a été d'abord la gouvernante des enfants de Madame de Montespan et du roi, et qui est devenue ensuite, qui était la vie incroyable, qui était venant d'un milieu noble mais très pauvre, qui était la veuve du, qui était la femme puis la veuve de Scarron, qui était un poète très polémiste, puis la gouvernante des enfants du roi de Montespan, et puis ensuite épouse de Louis XIV même. Donc on a cette phrase magnifique de Saint-Simon qui dit « Et nos yeux ont vu ce que la postérité refusera de croire ». C'est-à-dire Louis XIV épousait la veuve Scarron, enfin, pour parler comme ça. Donc qui a été un véritable règne à Versailles, puisqu'elle a eu une influence même politique extrêmement importante. Et à la mort du roi, elle s'est retirée à Saint-Cyr, donc la maison qu'elle avait, maison religieuse qu'elle avait créée pour des jeunes filles nobles pauvres. Elle sortira à Saint-Cyr ensuite, mais donc elle est à Versailles vraiment jusqu'à fin août 1715.
Et ça a duré 31 ans.
Que me reprochez-vous ?
Je ne vous reproche rien, madame, mais je mords les doigts de vous avoir épousée. Car il est malséant que vous soyez ma femme.
Vous avez cependant voulu ?
Je n'ai pas eu raison. Et d'autant moins que, non contente d'être ma femme, vous allez jusqu'à considérer que je suis, moi, votre mari. Tant et si bien que nous formons un ménage bourgeois qui n'est pas en accord avec la majesté des choses qui m'entourent.
Dois-je me retirer ?
Il est trop tard, madame. Et puis votre amitié pour moi, si vive et si profonde, n'aurait pas mérité ce châtiment cruel. Vous ne me comprenez pas, madame.
Vous ne me comprenez pas non plus.
Oui, mais ça a moins d'importance.
Et donc on a dans ce récit de Saint-Simon, et là on peut faire même un calendrier, c'est extraordinaire ce que je vais faire dans mon livre, une sorte de calendrier de la musique dans les derniers instants du roi. On a une alternance tout le temps de petite musique, de grande musique, petite musique, grande musique chez Madame de Maintenon, puis chez le roi.
Qu'est-ce que ça veut dire ça peut-être ?
Alors justement c'était la grande question, qu'est-ce que c'est qu'une petite musique et une grande musique ? Alors tout de suite on se dit c'est une question d'effectif, ce qui est d'ailleurs vrai, c'est-à-dire petite musique il y a moins de musiciens, grande musique il y a plus de musiciens. C'était effectivement le cas. Je me suis dit que ça pouvait être aussi le temps, même la durée, puisque quand on dit qu'il y avait musique, c'est qu'il y avait un concert. On appelait plutôt le terme musique pour ce qu'on appellerait maintenant un concert. Donc petite musique, ça peut être un instant pas très long. Grande musique, ça peut être plus long. Mais on apprend aussi une chose intéressante, cette fois-ci par le marquis de Dangeau. Petite musique et grande musique, c'était aussi les spectateurs. Dans le sens que vous aviez, par exemple, pour le lever du roi, on avait les petites entrées, les grandes entrées. Les petites entrées, contrairement à ce qu'on croit, c'était en fait les entrées réduites donc des personnages les plus proches du roi, la famille royale et une ou deux personnes nommées par le roi. Et les grandes entrées, c'était le tout venant presque des courtisans. Et petite et grande musique, c'était aussi ça, puisque Dangeau nous dit très clairement que le duc de Villeroy a pu venir à une grande musique, mais il n'a pas pu rentrer à la petite. Donc, visiblement, les petites musiques, c'était vraiment le cercle très intime de Louis XIV, même de maintenant, quelques-uns de ses enfants, et puis ce qu'on appelait les dames à l'époque, c'est-à-dire des amis du roi qui conversaient avec lui. Donc on a petite et grande musique, c'est je pense l'effectif, mais c'est aussi l'effectif des gens qui y assistent. Et ça c'est une découverte, je pense, c'est une chose qu'on connaît pas assez bien. Et alors on a donc une série comme ça de petite et grande musique, on a l'impression que jusqu'à la fin il a voulu entendre de la musique. Et on a cette fameuse fête du 25 août, qui est la fête de la Saint-Louis, le dimanche 25 août, 1715, donc une semaine avant qu'il meure. Et là, je pense qu'il faut citer le texte de Saint-Simon parce que c'est très, très, très impressionnant. Il est déjà très mal. Et on a là les musiciens qui arrivent, mais le roi est tellement fatigué qu'il va les prier de partir. Et là, on touche du doigt un peu le quotidien des musiciens. Et je trouve ce texte extrêmement intéressant et surtout pas du tout assez cité. Voici le texte de Saint-Simon. Le dimanche 25 août, fête de Saint-Louis, la nuit fut bien plus mauvaise, on ne fit plus mystère du danger, et tout de suite grand et imminent. Néanmoins, il, donc le roi, il voulut expressément qu'il ne fût rien changé à l'ordre accoutumé de cette journée, c'est-à-dire que les tambours et les hautbois qui s'étaient rendus sous ses fenêtres lui donnassent, dès qu'il fut éveillé, leur musique ordinaire, et que les 24 violons jouassent de même dans son antichambre pendant son dîner, le dîner étant à 13h, bien sûr, étant le repas de midi. Il fut ensuite en particulier avec Madame de Maintenon, le chancelier et un peu le duc du Maine.
Peu après que le chancelier fut sorti de chez le roi, Madame de Maintenon, qui y était restée, y manda les dames familières et la musique y arriva à 7 heures du soir. Cependant, le roi s'était endormi pendant la conversation des dames. Il se réveilla la tête embarrassée, ce qui les effraya et leur fit appeler les médecins. Ils trouvèrent le pouls si mauvais qu'ils ne balancèrent pas à proposer au roi, qui revenait cependant de son absence, à ne pas différer à recevoir les sacrements. On envoya quérir le père Tellier et avertir le cardinal de Rohan, et cependant on renvoya la musique qui avait déjà préparé ses livres et ses instruments. Et les dames familières sortirent. Le hasard fit que je passais dans ce moment-là la galerie et les antichambres pour aller de chez moi, dans l'aile neuve, dans l'autre aile, chez madame la duchesse d'Orléans et chez monsieur le duc d'Orléans après. Je vis même les restes de la musique dont je crus le gros entrer. Donc là, c'est bien les musiciens dont on parle. Hein. Je vis même les restes de musique dont je crus le gros entrer. Je trouvai madame la duchesse d'Orléans au lit avec un reste de migraine. Je m'approchai du lit et dis le fait à madame la duchesse d'Orléans, qui n'en voulut rien croire et qui m'assura qu'il y avait actuellement musique et que le roi était bien. Je lui dis une seconde fois que j'étais sûr de la chose. Elle me crut et je passai chez monsieur le duc d'Orléans, que j'avertis aussi. En un quart d'heure depuis le renvoi de la musique et des dames, tout fut fait. On a cette journée que je trouve très impressionnante où il écoute les choses qui étaient prévues à l'ordinaire, c'est-à-dire pour le 25 août, les tambours et les hautbois qui jouent sous ses fenêtres à son réveil, donc du côté de les fenêtres du roi donnent sur la cour de marbre à Versailles, puis les 24 violons qui jouent au dîner, donc c'était un dîner qui se comptait au grand couvert cette fois-ci, ce qui était exceptionnel, c'était habituellement au petit couvert.
Dîner au sens suisse, comme vous le disiez.
Exactement, à 13h, hein, qui est le souper étant le repas du soir. Et puis ces musiciens qui arrivent, qui préparent leurs instruments et leur musique, et qu'on renvoie parce que le roi est trop fatigué. Alors là, puisqu'on essaye j'essaye toujours de pister un musicien ou un autre dans les morts de Saint-Simon, là on pense tout de suite à François Couperin. Pourquoi ? Parce que François Couperin a publié plus tardivement en 1722, à la suite de son troisième livre de pièces de clavecin, ce qu'on appelle les concerts royaux. C'est 4 concerts magnifiques pour un ou deux dessus et basse continue. Il dit dans la préface, je cite de mémoire, « J'ai composé ces pièces pour les petits concerts de chambre où Louis XIV me faisait venir presque tous les dimanches de l'année et je leur ai gardé le nom sous lequel elles étaient connues à la cour en 1714-1715. » Donc, les concerts royaux de Couperin, c'était presque tous les dimanches de l'année en 1714-1715. On est ici le 25 août, un dimanche, 1715, les musiciens arrivent, petit concert chez le roi. Est-ce qu'avec un peu de chance, si je puis dire, Couperin se cache là et allait faire le jouer le clavecin dans ce concert? C'est tout à fait possible, on ne peut pas le garantir, mais c'est très probable qu'il ait été à la cour à ce moment-là. Donc voilà, par Saint-Simon aussi, quelquefois on arrive à toucher du doigt un quotidien des musiciens qu'on n'a ni dans les journaux officiels, ni dans les préfaces des musiciens eux-mêmes, Couperin parle pas de ça, et qu'on n'a pas non plus chez un mémorialiste plus traditionnel comme Dangeau qui dit des choses très objectives. Donc j'aime beaucoup ce moment-là. Et puis, plus de musique chez le roi à partir du 25 août, apparemment. En tout cas, Saint-Simon ne le mentionne pas, ni d'Anjou, la dernière semaine donc, de la vie du roi. Et on a donc cette phrase, vraiment ce texte magnifique de Saint-Simon pour sa mort. « Le samedi 31 août, la nuit et la journée furent détestables. Vers 11h du soir, on le trouva si mal qu'on lui dit les prières des agonisants. À la fin des prières, il dit « Ô mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir. » Ce furent ses dernières paroles. Toute la nuit fut sans connaissance et une longue agonie qui finit le dimanche 1er septembre à 8h15 du matin, 3 jours avant qu'il eût 77 ans accompli, dans la 72e année de son règne. Je trouve cette expression de Saint-Simon, le Jupiter mourant, c'est presque un titre d'opéra, c'est presque comme le Hercule mourant de d'Auvergne. Je trouve ça magnifique, ce Jupiter mourant, ça pourrait presque être un opéra. Et ça rejoint d'une certaine façon une phrase qu'aurait pu dire Louis XIV et qui a été normalement prononcée par le roi le 28 août au matin. C'est ce que dit Saint-Simon, il dit « Sur les 7 heures du matin, il fit appeler le père Tellier et comme il lui parlait de Dieu, il vit dans le miroir de sa cheminée deux garçons de sa chambre assis au pied de son lit qui pleuraient. Il leur dit « Pourquoi pleurez-vous ? Est-ce que vous m'avez cru immortel ? Pour moi, je n'ai jamais cru l'être et vous avez dû, à l'âge où je suis, vous préparer à me perdre. »
François Couperin en 1713 dans son premier livre, L'Auguste, Olivier Aubaumont, que vous nous jouez ici à Chambord, et qui est un portrait du roi, l'Auguste, c'est sûr ?
C'est pratiquement sûr que l'Auguste, c'est un portrait du roi âgé, on est en 1713, donc j'aime bien cette démarche très noble, une sorte de grandeur de la vieillesse, on pourrait dire comme ça, et donc c'est une des plus belles pièces de Couperin, ça ouvre son premier livre, donc à l'évidence c'est sans doute le portrait de Louis XIV, comme le troisième livre s'ouvre sur les Lys naissants que je jouerai demain, et qui sont à l'évidence aussi un portrait du jeune Louis XV cette fois.
On va se quitter aujourd'hui dans cet avant-dernier volet autour de Saint-Simon et la musique avec François Couperin, musicien, donc probablement des derniers moments musicaux de Louis XIV, dans un extrait de son 4e concert royal.
Je nous imagine, vous et nous, toujours en résidence au château de Chambord, avec David Mestri, avec Olivier Beaumont, à feuilleter l'ouvrage qui vient de sortir, Collection L'Infini, chez Gallimard, de Olivier Beaumont, à l'Opéra Monsieur, la musique dans les mémoires de Saint-Simon, avant de le retrouver demain en compagnie de Gérard Biestan, notre réalisateur, d'Isabelle Watson, notre assistante à la production, musique en mémoire, proposition de Louis Crédère. Vous écoutez Espace 2.